Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au programme du pédalo ce soir, le CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine, nous dévoile le programme pour sa saison 2026-2027. Depuis 1978, cette institution unique réunit un centre de création chorégraphique, une école supérieure de danse contemporaine et une programmation danse. Pour en parler, on reçoit Suzanne Copin, chargée de communication du CNDC, et Gilda, responsable des projets de médiation. En deuxième partie d'émission, on vous propose d'écouter le reportage de la série « Déjà demain, les territoires face au changement climatique » réalisé par la Frappe et la Corlab. Ce sixième épisode s'intéresse à l'éco-anxiété chez les jeunes. Voilà, vous savez tout pour ce pédalo du jeudi 2 juillet, alors ajustez vos gilets de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
La programmation de la saison du CNDC est sortie, vous pouvez dès à présent acheter vos places. Les thèmes forts de cette saison sont les futurs possibles, le collectif et la mémoire des histoires invisibilisées, des sujets qui poussent à la réflexion tout en mettant en avant des performances artistiques qui racontent des histoires profondes. Pour en discuter, on reçoit Suzanne Copin, chargée de communication du CNDC, et Gilda, responsable du projet de médiation. Bonsoir.
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 Comme je viens de le dire, cette saison, elle se base sur des thèmes. On peut prendre l'exemple des futurs. Ce n'est pas le futur comme l'imagination d'une vie future, mais plutôt notre perception du futur à notre instant.
Oui, je pense qu'effectivement dans ces questions de futur, on ouvrira la saison du CNDC en novembre cette année. On vous donnera rendez-vous dès septembre pour des petites festivités et justement parler un peu de tous ces spectacles et se donner envie ensemble de se lancer dans cette saison. Mais les spectacles commenceront vraiment en novembre. Et parmi les spectacles de novembre, c'est vrai qu'on a notamment... On va accueillir un spectacle de Lise Santoro et Pierre Godard qui s'appelle « This is Unreal » et qui a été construit autour de la question de l'intelligence artificielle. Et autour de ce spectacle, on va aussi proposer d'autres rendez-vous, à la fois des ateliers de danse qui vont tourner autour de cette question-là, mais aussi des débats sur la question de la place de l'intelligence artificielle dans la création artistique aujourd'hui. Donc voilà, dans la question des futurs, en tout cas immédiatement, ça me fait penser à ça, ouais.
Aujourd'hui, on le sait, les bouleversements climatiques qui s'enchaînent, les tensions politiques grandissent et les transformations technologiques font de plus en plus peur. Face à tout ça, est-ce que vous avez plutôt une vision pessimiste ou optimiste du futur?
On est toujours optimiste au CNDC, nous.
Hein? Oui.
Non, mais...
Bah, si, non, mais je pense que aussi la façon dont les artistes s'emparent, en tout cas, de ces sujets-là, c'est pas pour plomber l'ambiance, mais plutôt pour nous donner du grain à moudre. Enfin, j'ai l'impression que ta question, elle rejoint un peu la question de la place des artistes dans la société, et en tout cas, la façon dont nous, on la défend au CNDC, c'est que le fait d'aller voir les spectacles qu'ils proposent, ça permet de remettre en perspective justement toutes ces questions-là, de les voir différemment de la façon dont ces questions sont traitées dans les médias, par exemple. Et du coup, de se redonner aussi de l'énergie à plusieurs, de discuter de ces sujets-là et du coup de s'en emparer. C'est aussi l'intérêt de se réunir dans des salles noires, sans se connaître, mais de partager une expérience commune autour de ces questions-là et du coup de peut-être avoir envie de prolonger les échanges à l'issue du spectacle sur tout ça.
On parle de vision optimiste, alors il faut changer le futur en bien. Et pour le changer en bien, il faut avant tout changer le présent. C'est ça que vous essayez de faire comprendre à travers ce thème du futur, c'est de changer le présent?
Oui, on peut dire ça. En tout cas, le fait aujourd'hui d'aller voir des spectacles de danse en live, parce qu'il y a aussi, on est dans une société où beaucoup de choses se consomment via les écrans, et où du coup il y a une certaine déconnexion des uns des unes des autres, où on n'est plus forcément en dialogue immédiat avec nos prochains. on va dire. Je pense qu'effectivement, l'expérience du spectacle vivant, elle permet de changer le présent dans le sens où c'est un endroit où on peut se réunir et être dans un échange direct avec des vraies personnes. Et du coup, oui, partager des points de vue, en vrai.
Ouais. Sachant que la saison, effectivement, au CNDC, on l'imagine beaucoup, beaucoup, beaucoup au quai, parce qu'on y vit toute l'année et que c'est vrai qu'on... C'est un théâtre où on a la chance d'avoir différents espaces, que ce soit le T900, la grande salle, le T400, le Forum du Quai, qui est un espace qu'on utilise aussi pour des spectacles. Et puis, on a pris l'habitude, depuis que Noé Soulier et Marion Colletter sont arrivés à la direction du CNDC il y a 6 ans, de proposer aussi des spectacles, tu vois, à d'autres endroits, chez d'autres partenaires. Je pense au THV Saint-Barth, je pense aux rues, qui est le repère urbain, qui est ce lieu assez magique, qui a été réouvert il y a peu de temps, dans le jardin du Musée des Beaux-Arts. Et puis cette année-là, comme l'évoquait Suzanne, il y a ce projet de Lise Santoro et Pierre Godard, mais on commencera la saison avec un projet d'un chorégraphe qui s'appelle Yves Mbamba. Et pour le coup, il y aura des représentations de Baby Freeze, ce qui est un solo qu'Yves a imaginé, qui seront données au Théâtre du Quai, mais aussi dans une maison de quartier. Je pense à la maison de quartier avec qui on est en partenariat depuis cette année. Et qu'on essaye de continuer ce partenariat avec la maison de quartier Jacques Tati, qui est maison de quartier du quartier de Belbeil. Voilà.
On parlait tout à l'heure des intelligences artificielles avec le spectacle This is Unreal. Ça remet en cause l'IA, votre métier en tant que écrivain, chorégraphe, ça remet en cause cette vision-là de la touche humaine, on va dire.
Oui, en tout cas, c'est sûr que c'est une... ça vient bousculer nos pratiques, ça c'est certain. Maintenant, la façon dont on, quand je dis on, c'est effectivement moi, par exemple, à l'endroit de responsable de communication, je suis en lien effectivement avec des rédacteurs, rédactrices dont le métier est de poser des mots sur le travail d'artistes. J'ai pas forcément envie de déléguer ça à une intelligence artificielle, donc ça pose des questions. Oui, ça pose question. Et les artistes, effectivement, cette question de l'intelligence artificielle qui peut générer du contenu, et est-ce qu'elle peut générer un contenu artistique, est-ce que c'est possible de collaborer avec elle ou pas? En tout cas, le projet de Lise Santoro et Pierre Godard, This is Unreal, est un challenge à cet endroit-là. Ils ont vraiment pris le parti d'essayer de collaborer avec l'IA, ou en tout cas de l'intégrer, de s'en saisir pleinement. Mais nous, après, en tant que équipe et que personne qui accompagne des artistes, on y réfléchit et on va faire un temps de formation sur ces questions-là, notamment à la rentrée. Donc c'est une question prégnante, mais on n'y a pas répondu encore.
Il y a aussi le collectif, l'unisson que vous voulez mettre en avant dans des pièces de cette saison avec des grands plateaux, donc c'est-à-dire beaucoup de pertes d'artistes en même temps sur scène. C'est un message qui soit fort, faut qu'il y ait beaucoup de monde qui le porte en même temps.
Oui, en tout cas, c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de monde au plateau, ça crée une énergie qui peut être fédératrice. Mais là, le spectacle d'Olivia Granville, c'est vrai que donc qui s'appelle En même temps, je pense que tu évoquais là, il est décalé par rapport à ça. Je pense que c'est un peu l'idée de comment être ensemble, ça peut permettre d'être plus fort, mais ça peut aussi permettre de disparaître. ça peut emmener un peu un unisson et du coup une disparition de la singularité de chacun chacune. Et du coup, le propos de Olivia Granville avec ce spectacle, c'est effectivement de jouer sur les deux tableaux, à la fois de montrer la force du collectif, de l'unisson, et en même temps de rappeler qu'à l'intérieur de cet unisson, il y a des singularités. Et que l'idée n'est pas d'effacer ça.
Ouais. Sachant que, si je peux me dire, rajouter une chose, c'est que, effectivement, le projet d'Olivia, là, qui a été créé il y a...
Trois jours.
au Festival de Marseille, donc on a la chance de l'accueillir le 9 et 10 novembre.
Ouais.
Donc voilà. Et voilà, par extension, par rapport à ta question, c'est pas ta question, mais dire que sur un projet comme celui-ci, c'est ce qui est assez enthousiasmant côté CNDC, côté équipe, c'est aussi le fait que. C'est un projet, c'est assez rare pour le signaler, c'est un projet qui sera présenté en audio description, tu vois. C'est-à-dire qu'un projet en danse, il y a très peu, encore une fois, des projets de, qui peuvent être proposés à des gens malvoyants et aveugles. Et là, pour le coup, ce projet a été imaginé et accompagné par quelqu'un qui s'appelle Enora Rivière, qui est vraiment audio descriptiste. Voilà, j'ai toujours du mal à lire, je suis peut-être désolé. Voilà, c'est ça. Et puis, peut-être aussi par extension, c'est de dire comment nous, ça, c'est pas forcément aussi ta question initiale, mais comment on imagine une fois que on sait qu'on va accueillir cette proposition, comment nous on échange en interne pour effectivement convoquer des groupes, des publics. Je pense effectivement comme exemple, tu vois, le fait d'avoir ce projet d'Olivia, nous tout de suite on va imaginer ce qu'on appelle un parcours, un projet de médiation avec des étudiantes et des étudiants qui sont à l'INSPE. Et bien sûr, à leur endroit, ils sont accompagnés par des équipes pédagogiques qui, eux aussi, alimentent, tu vois, la réflexion par rapport à ce que peut être ce travail d'unisson, comme le disait Suzanne, sur voilà, faire collectif, tu vois, voilà. Donc c'est aussi ça qu'on peut évoquer quand il y a une progression qui se développe tout au long de l'année. C'est comment nous, on peut imaginer, et effectivement, encore une fois, créer des passerelles avec des groupes constitués, voilà.
Donc la pièce en même temps d'Olivia Granville, elle parle de forces qui divisent. On peut évoquer la conformité qu'on vient de parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut diviser un groupe?
Tu as 3 heures.
Qu'est-ce qui peut diviser un groupe? Bah, en tout cas, dans la pièce d'Olivia Granville, ce qui va créer les endroits de division, ça va être les décalages notamment de tempo et de mouvement. À un moment donné, quand il y a une synchronicité parfaite et qu'une personne commence à être en décalage, elle va du coup ressortir différemment par rapport aux autres. Et donc l'attention va se concentrer sur cette personne-là. Et à partir de là, elle peut tirer un fil et nous emmener ailleurs. Ce qui divise dans le groupe, effectivement, c'est une question infinie, mais dans le spectacle d'Olivia Granville, ça va être ça va se jouer dans le corps.
Puis il y a aussi le thème des mémoires, des histoires invisibilisées, ce qui n'est pas forcément dit. Aujourd'hui, vous et les chorégraphes, à travers les spectacles, vous avez envie de transmettre ces mémoires. Comment on travaille sur des mémoires qui ont été si longtemps invisibilisées, ignorées? Ça nécessite un travail de recherche en amont assez conséquent.
Effectivement, quand tu parles de cette thématique, je pense qu'on peut évoquer l'artiste Betty Chomanga, qui a été étudiante à l'école du CNDC et qui a un parcours aujourd'hui de chorégraphe reconnu avec plusieurs pièces à son actif. Et cette saison, on présentera deux de ces pièces. Un solo qui sera présenté justement au THV, comme l'évoquait Gilda, qui s'appelle Autoportrait. Et une pièce de groupe dans laquelle, pour le coup, elle n'est pas interprète, qui s'appelle The Sea is History. Et dans les deux cas, c'est vrai que Betty, enfin, de toute façon générale, depuis le début des pièces qu'elle a créées, et donc jusqu'à aujourd'hui, elle s'interroge sur sa place à elle en tant qu'individu dans la société, qui est du coup une femme noire dans une société patriarcale blanche. Donc voilà, quelle place elle a réussi à se faire malgré sa minorité, sa condition minoritaire. Et du coup, petit à petit, elle a tiré le fil de cette minorisation pour aller chercher ses racines à elle et les racines des personnes avec lesquelles elle travaille, notamment dans The Six History. Du coup, elle rassemble un cast, une distribution de danseuses, danseurs qui sont toutes et tous racisés et qui du coup partagent ces mêmes questionnements d'où est-ce qu'ils sont arrivés dans des pays blancs et comment ce chemin s'est fait pour eux, pour leurs parents, pour leurs arrière-grands-parents, etc.
Et comme tu le disais, Suzanne, effectivement, Betty a fait l'école du CNDC il y a quelques années. À l'époque, c'était Emmanuelle Huyn qui était la directrice du CNDC, voilà. Et Betty, effectivement, alors juste pour repréciser aussi, c'est qu'elle sera invitée dans le cadre d'un festival qui s'appelle Conversation, qui vient un peu rythmer notre saison au CNDC. Et festival qui s'est s'étalera sur quasiment tout le mois de mars. Je crois que les dates exactes, c'est du 11 au 26 mars 2027. Donc là, je vous projette déjà dans...
loin.
Mais il fera froid.
Oui, mais... ça fait du bien d'y penser.
Mais il faut réserver des places maintenant, parce que la billetterie, ça fonctionne à fond. Là. Donc, mais voilà. Non, mais c'est, en fait, c'est aussi le cadre de ce festival où je pense qu'il y aura aussi des temps qui seront imaginés et pensés avec Betty, sur, comme le disait tout à l'heure Suzanne, des temps de rencontre, d'échange avec le public... Tu vois, pourquoi pas des formes de conférences ou des projections de films. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais on collabore souvent avec le cinéma Les 400 coups. C'est, voilà. Bon.
J'aimerais aussi parler de la pièce Sibylline de Léo Lérus, qui montre la recherche des mémoires caribéennes et de leur devenir contemporain. Pour résister à l'oubli, il y a un proverbe créole qui dit « Les paroles sous les feuilles ne se perdent pas ». Avec cette citation, il montre, pour sa pièce et la pièce qu'on vient d'évoquer, que finalement rien n'est jamais oublié.
Ben oui, tant qu'il y a des personnes en tout cas qui sont encore là pour se souvenir et raconter, on peut partir du principe que les choses continuent à vivre et à se transmettre. Et effectivement, en tant qu'artiste racisé, que ce soit Léo Lérus ou Betty Chomanga, je pense que c'est quelque chose qui leur tient à cœur et qui, du coup, qu'ils vont porter sur des plateaux avec, en l'occurrence, des grandes distributions. Enfin, quand on dit du coup grande distribution, c'est quand il y a beaucoup de danseuses et danseurs sur le plateau. Et c'est vrai que je pense que... Pour le CNDC, c'est aussi effectivement un engagement de donner autant de place à ces questions-là, autant de place physiquement et autant d'argent, puisque forcément, quand il y a beaucoup de monde sur le plateau, ça coûte plus cher. Mais du coup, c'est super de voir que des artistes que la société dominante considère comme minorisés, peuvent avoir accès aujourd'hui à des grandes salles comme la salle T900 au Quai. Et mettre sur scène ses corps et ses histoires.
Ouais, je crois que c'est la première fois que Léo Lérus, on l'a déjà accueilli deux fois sur des précédents projets. Et il me semble que c'était en T400, ouais, pour Entropie et
Gounouge.
Gounouge, voilà, ouais, tout à fait.
Donc qui étaient déjà des projets sur ces questions-là de ces racines caraïbéennes. Ouais.
Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi évoquer Bruce Giffard par rapport à son travail qui nous présentera aussi. Ouais. Au moment du festival, où il re-questionne Bruce Giffard, chorégraphe Breaker, sa maman est cambodgienne, son papa réunionnais, mais sur son prochain projet, il questionnera aussi les danses royales Khmer, en fait, et l'univers des danses urbaines. Ouais. Et là, je crois qu'il a fait un travail avec une anthropologue, je crois que c'est son travail de recherche. En tout cas, ce qui l'a amené à créer, c'est vraiment un dialogue aussi avec une anthropologue.
On continue de parler de la nouvelle saison du CNDC, mais avant, on fait une pause musicale. On écoute Where I Can Go de Marlena Shaw, une musique jazz avec la voix la plus charismatique que vous allez entendre aujourd'hui. A tout de suite dans le pédalo. Tell me where can I go? Every door C'était Where Can I Go de Marlena Shaw. Vous êtes bien sur Radio Campus et on est toujours en compagnie de Suzanne Copin, chargée de communication du CNDC, et Gilda, responsable des projets de médiation, pour parler de la nouvelle saison. Alors, on peut parfois se demander ce qui se passe en amont des spectacles de danse, et c'est possible de savoir avec leur danse qui présente les avancées des travaux des artistes. C'est ouvert à tout le monde, gratuit, sur réservation. Comment vous est venue cette idée d'ouvrir les portes du travail des artistes ?
Je pense que c'est une idée qui était présente depuis un moment, mais on va dire que le déclencheur, c'est l'arrêt de l'accompagnement au projet du CNDC de la région des Pays de la Loire, qui a coupé donc l'intégralité de sa subvention. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait une incompréhension totale sur la façon dont cet argent que les tutelles publiques, donc les personnes qui donnent de l'argent au CNDC pour faire son projet, une incompréhension sur la façon dont cet argent a été utilisé. Et en fait, on ne peut pas, en tant que centre chorégraphique, qui et un label du ministère de la Culture pour lequel il y a un cahier des charges, et dans ce cahier des charges, l'émission, c'est d'accompagner la création. Donc en fait, on n'est pas uniquement un lieu de diffusion de spectacles. On n'est pas là juste pour acheter un spectacle, le proposer au public, mais on a aussi des espaces de travail pour les artistes. Ils ont des studios dédiés pour du travail artistique toute la journée, et on les héberge aussi sur ces périodes-là. Donc le CNDC a aussi la capacité d'héberger les artistes sur leur temps de présence. Donc tout ça, forcément, ça représente du temps et de l'argent. Et donc leur danse, c'était effectivement l'occasion pour nous de montrer au public et aux tutelles, si elles veulent bien prendre la peine de se déplacer et de venir jusqu'à nous, de voir en fait qu'est-ce qui se passe effectivement au quotidien dans les studios du CNDC, et qu'un spectacle, en fait, ça prend du temps pour se construire, que parfois les artistes empruntent une piste et en fait ils se rendent compte que c'était pas la bonne, donc ils vont corriger en cours de route. Ça me fait penser à la première heure danse, la toute première heure danse qu'on a faite l'an dernier, qui était avec un artiste chorégraphe iranien qui s'appelle Armin Okmi, et dont on avait découvert un morceau de travail, et en fait la pièce a été créée la semaine dernière au Festival Montpellier Danse, et entre le moment où nous on a vu quelque chose en septembre dernier et la création finale la semaine dernière, en fait il s'est passé beaucoup de choses, il a changé la collaboration musicale, il y a des personnes dans l'équipe des danseuses danseurs qui ont changé aussi, enfin voilà, en fait la création artistique, c'est un chemin comme n'importe quelle chose qu'on fabrique, et il faut du temps et de l'argent pour ça.
Ouais, et puis peut-être rajouter en complément de ce qu'évoque Suzanne, c'est que leur danse, ça nous permet aussi de... Il y a un cadre qui est très convivial, en fait, ça se déroule habituellement dans ce qu'on appelle notre studio de création, qui est un petit théâtre au sein du quai, avec un espace où on peut accueillir 100 spectatrices et spectateurs. Et puis là, cette année, ce qui était chouette, c'est qu'on en a proposé sur le temps du midi, et ça nous permet aussi, mais c'est pas rien de le dire, de convoquer aussi du public, encore une fois, qui n'ont peut-être pas la possibilité de sortir le soir. Je pense aussi à, par exemple, à un travail qu'on peut faire avec des associations, avec des éducatrices et des éducateurs qui travaillent avec des publics handicapés. Du coup, la sortie au soir est compliquée pour eux, et le temps du midi. Et puis, encore une fois, oui, c'est des moments aussi qui sont... Moi, j'aime beaucoup dans le sens où c'est très pédagogique, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, il y a cette rencontre où, comme le disait Suzanne, c'est une étape de travail, ça permet aussi aux artistes de montrer un bout de leur création et d'avoir un peu des premiers retours des futurs spectatrices, spectateurs sur où ils vont, qu'est-ce qu'ils se questionnent, et c'est vrai que c'est vraiment des chouettes moments, et encore une fois, qui sont gratuits, sur simple réservation. Souvent, encore une fois, on imagine que souvent les spectacles, ça peut avoir un coût. Peut-être dire que les propositions du CNDC, il y a des propositions gratuites comme leur danse, et après, les tarifs, ça va de 2 à 27 euros. Et c'est vrai que depuis l'arrivée, encore une fois, de Noé Marion à la direction du CNDC, il y a une volonté forte de proposer des tarifs à 5 euros pour les étudiantes et les étudiants sur beaucoup de spectacles dans la saison. Bon, ça, c'est mon côté un peu relations publiques, médiateur qui parle, mais c'est aussi à souligner, je pense. Voilà.
Il y a aussi des échanges avec les équipes artistiques. Ce genre de contact, c'est plutôt utile pour attiser la curiosité des spectateurs et les sensibiliser à la danse et peut-être plus largement au CNDC ou au quai, totalement. Mmh.
Bah oui, c'est vrai que si on repense de nouveau à Armin Okmi, dont on avait accueilli la première Heure Danse en septembre dernier, on présentait un de ses spectacles dans le Festival Conversation, donc pour le coup un spectacle qui était déjà créé, qui s'appelait Shiraz. Et on a senti qu'effectivement les personnes qui étaient venues à l'Heure Danse avaient envie d'aller plus loin. En fait, c'est vrai que c'est une première rencontre avec les artistes qui est aussi très humaine du coup, et qui crée de l'attente. Et qui du coup va permettre de fidéliser les personnes qui ont accès à ce moment très privilégié où il y a peu de gens et où on peut discuter en direct avec l'artiste. Ça donne forcément envie de suivre son parcours après sur le long terme, je pense. Ouais. Ouais.
Sachant qu'on passe beaucoup par la pratique dans l'acte de faire médiation. Et Armin, par exemple, juste au moment du Festival Conversation cette année, nous avait proposé un échauffement de la spectatrice du spectateur. Donc c'est, quand on dit échauffement, c'est un atelier qui dure une heure, ouvert à tout le monde et sans avoir des prérequis sur le fait de savoir danser. Et ça passe aussi par des temps comme ça où on crée du lien en tout cas entre le public et les artistes qu'on accueille tout au long de l'année au CNDC.
On vient d'évoquer justement les places des étudiants à 5 €. On sait que la plupart des étudiants, ils ont du mal à finir les fins de mois. S'offrir un spectacle, ça peut être du luxe, et donc en offrant des tickets à ce prix. Le but, c'est de faire sortir les étudiants ou de les rapprocher encore plus de la culture.
Bah là, nous, on peut-être les un deux. Peu... Ouais, un peu les deux. Alors, on parle des tarifs à 5 € qu'on propose. Il y a aussi, peut-être, c'est une chose importante, peut-être tout le monde sait, mais le CNDC, on est aussi partenaire d'un dispositif qui s'appelle le Bac Bienvenue, initié par le service jeunesse de la ville d'Angers. Et puis après, c'est vrai que ça passe beaucoup aussi par des relais avec des équipes pédagogiques. Je pense à des profs, par exemple, à l'université de l'UCO. On travaille beaucoup avec la filière art du spectacle, spectacle vivant. Et puis on travaille aussi avec, bien sûr, l'université d'Angers et des écoles supérieures. Donc là, on est aussi sur des actions comme ça, où on échange avec les services concernés pour voir comment on peut proposer des tarifs, encore une fois, abordables pour les étudiantes et les étudiants.
Il y a aussi la fin d'association avec Léa Vinette et Maud Blandel, avec qui vous travaillez depuis 3 ans, ou encore le Festival Conversation qu'on a évoqué très légèrement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de parler aujourd'hui, enfin ce soir?
Bah oui, c'est vrai que si tu nous lances sur la fin de l'association avec Léa Vinette et Maud Blandel, c'est, pour nous, c'est forcément émouvant de les avoir accompagnés pendant 3 ans, d'avoir du coup vu avec elles des nouveaux spectacles en train de se construire aussi. Et donc là, ce sera super de pouvoir finir avec elle. Léa Vinette donc présentera Éclat, qui est un trio au sein du musée Jean Lursa, au milieu des tapisseries du Champ du Monde. Donc ça va être quelque chose de complètement inédit et du coup un moment à ne pas rater. Et Maud Blandel, on a la chance du coup de pouvoir proposer sa toute dernière création qui a été créée en Suisse il y a 2 semaines, Same Old Songs, qui est inspirée d'un texte de Virginia Woolf qui s'interroge sur la façon dont les hommes, dans le sens être humain de sexe masculin, ont une appétence particulière pour la guerre et ne peuvent pas s'empêcher de déclencher ou d'envenimer les conflits et comment les femmes et les enfants se retrouvent liés à ces problématiques-là sans en avoir, sans avoir rien demandé. Voilà, tout ça traduit dans la danse, donc il ne restera rien textuellement de l'œuvre de Virginia Woolf, mais en tout cas c'est ça le point de départ et on a hâte de découvrir cette nouvelle création. Ouais.
Merci beaucoup Suzanne Copin, chargée de communication du CNDC, et Gilda, responsable des projets de médiation, d'avoir été nos invités ce soir. Je rappelle que la billetterie du CNDC est ouverte, il y a d'autres spectacles que nous n'avons pas évoqués et qui méritent d'être vus. Pour les étudiants et étudiantes, n'oubliez pas que certains spectacles sont au prix de 5 €. Bonne soirée! Le pédalo, c'est bientôt fini, mais avant, on vous propose d'écouter un reportage réalisé dans le cadre de la série de la Frappe et de la Corlab, déjà demain, les territoires face au changement climatique. Un épisode sur l'éco-anxiété chez les jeunes par Michel Sourget d'Alternante FM.
Onde durable, déjà demain, Les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages à la rencontre de celles et ceux qui transforment nos façons d'habiter, de vivre et de faire territoire.
Comment faire face à l'éco-anxiété chez les jeunes? Lors d'une chaude journée de mai à Nantes, alors que les températures rappelaient concrètement les enjeux du changement climatique, un collectif de 4 structures a organisé un temps d'étude pour informer et proposer aux acteurs de l'éducation, travaillant auprès de grands ados et de jeunes adultes, des outils permettant entre autres de libérer ses émotions avec pour objectif de transformer cette angoisse climatique en levier d'action. Christine Paclet du service départemental Jeunesse Engagement Sport nous présente la genèse de ce projet collaboratif.
Cette journée sur l'éco-anxiété, elle a été organisée par un collectif de 4 structures, 2 structures publiques et 2 associations. Les associations, les CMEA, un mouvement d'éducation populaire qui travaille notamment sur les questions de pédagogie du dehors et sur l'environnement. Il y a également Promotion Santé, qui est une association membre d'un réseau national qui promeut l'éducation à la santé et qui travaille aussi sur l'éducation thérapeutique des patients. Dans les acteurs publics, c'est l'Université de Nantes, notamment la mission pour la transition écologique, qui donc accueille la journée en ses locaux et sur son campus dans la verdure. Et puis le dernier acteur, c'est l'éducation nationale et plus particulièrement le service départemental Jeunesse, Engagement et Sport, dont une des missions est une mission d'éducation et de promotion de l'engagement des enfants et des jeunes sur les temps péri-extra. Scolaire. Ce collectif, c'est un peu à la base une envie de travailler ensemble, à la fois pour des acteurs qui avaient déjà traité de l'éco-anxiété, mais qui n'étaient pas très satisfaits de la façon dont ils menaient leurs ateliers auprès des jeunes, parce qu'ils sentaient que travailler par exemple sur les fresques du climat, ça pouvait générer de l'inquiétude, ça pouvait générer de la paralysie et de l'angoisse. Donc ils avaient envie de retravailler les questions environnementales, mais avec la question des émotions au centre. Et puis il y en avait d'autres, comme le Jeunesse et Sport, qui n'avaient pas du tout mis ça encore au travail. Donc après, c'est un peu le hasard des rencontres. On s'est dit, bah voilà, on aimerait bien travailler ensemble, et on s'est retrouvé un petit collectif depuis le mois d'octobre. On se réunit régulièrement avec l'idée aussi d'avancer ensemble sur notre connaissance de l'éco-anxiété, de ses mécanismes et des actions qui peuvent être entreprises.
Cécilia Salé de Promotion Santé, Pays de la Loire.
Qu'est-ce qui fait que cette envie de vous préoccuper de ces questions soit si tardive?
C'est une sacrée bonne question, ça. Je pense qu'on était aussi occupés à faire du plaidoyer pour d'autres axes de santé, notamment sur les compétences psychosociales. On a beaucoup œuvré pour qu'il y ait des projets, des actions qui se mènent sur les compétences psychosociales. Maintenant, c'est un peu plus intégré dans le quotidien, il y a une circulaire, tout ça. Donc ça nous permet aussi de penser d'autres facteurs qui influencent la santé, donc l'environnement. Et il y a aussi de plus en plus d'études qui viennent nourrir notre réflexion et notre positionnement sur ces questions-là. Aussi, nous, ce qu'on cherchait à porter comme message et à accompagner les jeunes dans cette réflexion, en promotion de la santé, on cherche à renforcer le pouvoir d'agir individuel, mais aussi collectif et politique. Et ça, c'est notre message clé aussi sur... La question de l'éco-anxiété, il faut la relier au pouvoir d'agir. Et ça, c'est fondamental pour nous d'outiller, de donner des ressources aux personnes pour qu'elles puissent agir à leur niveau individuel, mais aussi au niveau collectif et au niveau politique.
Sylvia, je suis infirmière dans un lycée nantais. Nous avons des éco-délégués qui sont très actifs au sein du lycée, car la question de l'environnement, les interpelle.
J'interromps un atelier. On vous a demandé d'exprimer des émotions.
C'est exprimer des émotions. Donc, les 4 émotions les plus importantes, telles que la joie, la peur, la colère et la tristesse.
Et si on retourne les papiers, qu'est-ce qu'on lit?
Ah, c'est personnel.
C'est le jeu, il fallait partager ses émotions.
J'y vais, j'ose. J'aime le mot oser. Donc, la tristesse, ça me fait penser, de voir cette belle terre disparaître, souffrir. Voir cette terre souffrir, moi, ça me... compliqué. La colère, que les pouvoirs politiques ne s'emparent pas assez, de voir aussi les autres pays ne pas faire grand-chose, donc ça me met en colère. Voilà. La peur, la peur, c'est l'explosion de la Terre, voilà. C'est ça, c'est qu'on aille de plus en plus dans des canicules, dans des tempêtes, voilà. Et la joie, la joie, c'est qu'on puisse se réunir, cette journée-là, un peu se réunir, et je vois des sourires, malgré ce sujet dramatique, on arrive à en discuter, à parler de nos émotions, et trouver comment agir autour de ce problème.
Je suis Marion Condomina, je travaille à la mission transformation écologique de Nantes Université. Donc c'est un service administratif de Nantes Université. Une de mes missions, c'est de structurer, d'encadrer et d'animer des ateliers de sensibilisation aux enjeux de transition écologique et sociale, de type fresque, fresque du climat, fresque de la biodiversité, l'économie circulaire. Voilà, on a tout un catalogue qui balaye pas mal de thématiques. Et du coup, par ce rôle que j'ai au sein de la mission, j'ai intégré le groupe de travail autour de l'organisation de cette journée sur l'éco-anxiété. Aussi parce que, en fait, la thématique autour de l'éco-anxiété, c'est quelque chose qu'on aborde peu avec nos étudiants, qui sont pourtant sujets à cette émotion. Pour moi, ça avait pas mal de sens de faire partie de ce groupe de travail et d'y intégrer aussi des enseignants de Nantes Université, du personnel administratif qui ont pu être présents aussi, qui travaillent sur les sujets de santé étudiante. Voilà, ça nous a permis d'inviter aussi la communauté universitaire et d'être représentés aujourd'hui.
Comment vous pouvez apprécier chez les étudiantes et les étudiants que leur anxiété soit relative à des problèmes d'environnement ?
C'est pas une question facile parce que hors cadre d'atelier, comment dire ?
Parce qu'ils ne viennent pas vers vous spontanément ?
Non, pas du tout. En fait, c'est dans ces parties de débrief d'atelier où, en fait, il y a une phase de constat sur lesquels on les laisse un peu dans un état de sidération. Et suite à cette phase de constat, on les fait parler un petit peu de leurs émotions. Et donc là, au départ, souvent, tout va bien. Ils commencent un peu l'atelier aussi sans réellement mettre des mots, en tout cas, sur des émotions quelconques autour des enjeux climatiques, etc. Et quand on arrive sur cette phase de débrief et qu'on commence à leur montrer l'arbre des émotions avec différentes émotions, on les fait choisir entre les émotions sur lesquelles ils se placeraient, eh bien, là, on peut voir qu'il y en a beaucoup qui osent s'exprimer. Là, on leur laisse un petit peu la parole en leur donnant des exemples. Et finalement, on s'aperçoit que, nombreux ont des sentiments de peur, de crainte face à l'avenir, d'impuissance. Et là, ils le verbalisent un petit peu plus parce qu'on leur laisse l'espace pour le faire.
Mel, je suis en service civique au CMEA.
Est-ce que cette question de l'éco-anxiété vous concerne ?
Bien sûr, elle me concerne un peu moins maintenant que je suis à la fac. Mais elle m'a beaucoup concernée quand j'étais au collège et au lycée parce que j'avais pas de pouvoir d'agir, j'étais juste dans le constat et du coup dans l'anxiété.
Ça se traduisait comment, votre éco-anxiété ?
Ça se traduisait surtout par de la peur. En vrai, j'ai pas tant été triste, j'ai surtout été apeurée et en colère. Aussi parce que ma famille n'est pas du tout dans une écologie quelconque. Et du coup, j'étais plus dans un constat des études scientifiques qui sortaient les unes après les autres et des informations diverses et variées à ce propos. Du coup, la dissonance avec ma famille et le modèle de consommation. Donc c'est surtout ça qui m'a fait peur, parce que j'avais peur, en fait, de me retrouver plus ou moins facilement embarquée dans un modèle de consommation. Parce que quand on est jeune, c'est facile d'être opposé aux choses de sa famille. En fait, quand on grandit, c'est aussi très facile de rentrer dans un certain modèle.
Quand on baigne dans un environnement familial non écolo, qu'est-ce qui fait qu'on prend conscience ? C'est par l'école ?
J'ai pas vraiment pris conscience par l'école, j'ai pris conscience par mes réseaux sociaux et l'orientation que prenait mon algorithme au fur et à mesure du scrolling, quoi. Donc les questions écolo sont plus ou moins arrivées à ce moment-là.
Qu'est-ce qui fait que votre degré d'éco-anxiété soit plus bas aujourd'hui ?
Aujourd'hui, en fait, je pense ne plus être triste et ne plus avoir aussi peur, en tout cas qu'avant. Je pense être surtout très en colère et en même temps avoir une part un petit peu d'espoir par rapport aux différentes initiatives citoyennes qui se montent. Et je pense que ça permet quand même de garder un peu la tête hors de l'eau et de maintenir des perspectives d'action un peu partout, en fait. Et du coup, la colère me donne envie de bouger. Mais après, la colère fait un petit peu partie aussi du cercle de l'éco-anxiété. Donc en vrai, on peut un petit peu dire que je suis éco-anxieuse. Mais beaucoup moins qu'avant.
Thomas Prime, enseignant détaché au CMEA Pays de la Loire, une association d'éducation populaire et d'éducation nouvelle.
Depuis combien de temps les CMEA se questionnent, s'interrogent, posent comme problématique l'éco-anxiété ?
Alors l'éco-anxiété en tant que telle, le terme est assez récent. Par contre, les questions du dehors et de l'éducation relative à l'environnement et des enjeux dont aujourd'hui on sait qu'elles sont en lien avec cette thématique de l'éco-anxiété, c'est dans notre ADN depuis toujours. Les CMEA ont été créés en 1937 et très tôt, les enjeux du dehors, au début avec un prisme un peu naturaliste, mais avec cette dimension de l'ERE qui n'est pas la même chose que le DD.
C'est-à-dire ?
Alors EEDD, c'est éducation à l'environnement et au développement durable, là où l'ERE, c'est l'éducation relative à l'environnement. Et le parti pris de l'ERE, c'est plutôt que d'être sur un discours moralisant et de dire pourquoi il faudrait respecter l'environnement, on va d'abord être dans une pratique sensible et en situation des questions du dehors. Et en fait, c'est en découvrant et en vivant le dehors qu'on va avoir du sens à le protéger.
Vous venez d'écouter Déjà Demain, les territoires face au changement climatique.
une collection de reportages produite par la CorLab et la FRAP avec le soutien de la Fondation de France. Cette série s'inscrit dans le cadre du projet Ondes Durables.
Un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir des alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, groupe Caisse des dépôts.
L'éco-anxiété chez les jeunes, un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.
Merci à Michel Sourget pour ce reportage. Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci Maël à la technique. La programmation continue sur le Centre FM, alors restez bien avec nous. Et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.